Laurent Frédéric Bollet, bonjour. Alors, très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie aux éditions Rue de Sèvres de votre bande dessinée, Le visage du créateur, dans laquelle on va suivre quasiment minute par minute la désintégration de la navette Challenger le 28 janvier 1986. Qu'est-ce qui, dans l'histoire de Challenger, vous a convaincu que ce drame méritait d'être raconté sous l'angle du visage du créateur plutôt que comme un simple documentaire historique?
J'y ai vu effectivement une aventure plus que tragique, c'est le moins que l'on puisse dire, parce qu'il y a quand même 7 personnes qui meurent d'un coup et qu'en plus on a tous vu à la télévision. Et c'est ça qui a été pour moi l'étincelle, si j'ose dire, c'est qu'évidemment je me souviens très bien l'avoir vécu jeune devant mon poste de télévision. En
Clarençon, c'est justement hélas notre anniversaire.
Oui, il y a quelques jours nous étions pile au 40e anniversaire de cette tragédie. Et moi à l'époque, il n'y a pas de chaîne d'info, on va dire, mais je vous assure qu'en France, TF1 fait une édition spéciale dès que le drame est connu, avant le journal de 20h le soir. Donc la grille des programmes est bouleversée pour rendre compte de ce drame. Donc c'est comme si on l'avait vécu en direct. En tout cas, moi j'ai toujours cru que j'avais vu en direct, mais apparemment c'était juste quelques minutes après en édition spéciale. Le fait est que on est là dans ce qui me touche beaucoup, à savoir effectivement une dimension historique qui en plus nous touche puisqu'on l'a vécu entre guillemets, et qui me permet surtout de mettre en scène des personnes qui vont être un peu pris dans un destin qui va être évidemment plus fort qu'eux et qui va les toucher de plein fouet. Donc et évidemment quand on lit Le visage du créateur, je crois qu'on comprend tout de suite que je suis pas un ingénieur astrophysicien, mais je suis bien un scénariste qui va partir d'une documentation réelle et historique pour en faire un grand récit humain et émouvant.
Challenger fut un traumatisme mondial. Comment gère-t-on la pression de mettre en image un événement que beaucoup d'acteurs, comme vous dites, ont vécu en direct? C'est un gros défi.
Oui, c'est un gros défi parce qu'on sait, quoi qu'il arrive, que le livre ne peut pas être court, ça va être un peu quand même ce qu'on appelle maintenant un roman graphique au long cours, avec pratiquement 300 pages, qu'effectivement, il faut s'immiscer un petit peu dans les interstices de l'histoire officielle. Je prends un exemple. Mon personnage principal est cette femme qui est professeure et qui doit donner un cours depuis l'espace, qui a été sélectionnée. C'est une civile. Bon, bah, je la mets en scène dans son environnement quotidien, au sein de sa famille. Là, je me permets d'intervenir pour, en quelque sorte, proposer le roman vrai, mais je la fais parler de manière un petit peu, évidemment, inventée. Par le scénariste que je suis. Mais en tout cas, vous avez employé le mot pression, je vois pas de pression. C'est s'emparer d'un sujet pour effectivement témoigner déjà, apprendre des choses à nos lecteurs. Ça, je suis très sensible à ça. Je veux que mes lecteurs apprennent des choses. Et si on peut le faire en étant un peu bouleversé et en étant en tout cas pris dans une histoire, bah, c'est mon métier aussi que de faire un récit qui fait qu'on tourne les pages pour savoir comment ça va se passer, quoi.
La documentation et les informations recueillies ont-elles été faciles à obtenir? Je suppose que bon, il y a un gros travail de recherche en amont, non?
Oui, évidemment. On n'est pas là pour raconter n'importe quoi. Il faut que je comprenne des choses. La première chose déjà évidente, c'est quoi une navette spatiale? Parce qu'une navette spatiale, mine de rien, c'est composé de 3 éléments. Il y a ce qu'on appelle l'avion, l'orbiteur, mais vous avez aussi un grand réservoir externe et vous avez 2 petites fusées fines sur le côté qu'on appelle des boosters, qui sont des propulseurs d'appoint. Pour tout ça, j'ai dû apprendre. Mais c'est vrai, je ne savais pas non plus que quand on dit la navette spatiale va déployer un satellite, oui, mais ça se passe comment? En fait, c'est dans les soutes de la navette spatiale. Il y a un poste de pilotage à l'avant, comme un avion, mais derrière, c'était une soute où il y avait un satellite. C'est comme ça qu'ils allaient l'installer. C'était une des missions, d'ailleurs, de cette mission Challenger de janvier 86. Donc oui, évidemment, volonté de documentation est évidente, nécessité de comprendre certaines choses, de pas dire de bêtises. Mais bon, à partir de là, c'est un petit peu pour s'en éloigner aussi, parce que je fais pas un livre de vulgarisation sur l'ingénierie astronautique. Donc effectivement, on va mettre en scène plus le destin de 7 astronautes et d'un drame qui aurait dû et pu être évité.
On va en parler. Tous les rapports de la commission Rotter, c'était oui. Disponible.
Oui.
Mais pas eu de soucis. Parfois aucune censure, enfin un peu comme on voit maintenant avec le dossier Epstein. On arrive à se demander si ce dossier-là aussi n'avait pas amené quelques soucis.
Je crois pas. Je crois.
Du dos de Maison Blanche.
Oui.
Alors, bon, une commission est mise sur pied dès le lendemain du drame. C'est Monsieur Rogers qui donne son nom, qui la préside. Il y a Nina Armstrong, par exemple, à l'intérieur. Donc, il y a quand même du beau monde. Et c'est sérieux. Il y a plein d'auditions qui sont publiques, qui sont télévisées. Alors, évidemment, ça semble évident maintenant. Mais à l'époque, il n'y a pas vraiment beaucoup de chaînes d'infos. Il y a CNN, bien sûr. Aux États-Unis, il y a une qui s'appelle C-SPAN. Mais quand même, c'est télévisé. Donc, il y a notamment le passage le plus célèbre. C'est une prise de bec, si j'ose dire, entre un grand responsable de la NASA et Richard Feynman, ancien prix Nobel de physique, qui fait partie de la commission Rogers et qui le met en défaut. Et là, on voit bien qu'évidemment, c'était pas prévu et qu'il se serait bien passé d'être comme ça accusé à la face du monde d'avoir fait effectivement commis une négligence. Donc, c'est sans pitié, hein. Et après, tout le monde à la NASA est débarqué, hein. C'est comme ça que ça s'est un peu terminé aussi. Bon. Donc, non. Je vois pas d'éléments qui auraient été cachés parce que la NASA était fautive et tout le monde le sait. Il y a eu des conséquences. Et d'ailleurs, la NASA a communiqué sur le fait que les astronautes étaient vivants au moment du drame, ce que personne ne savait. D'abord, parce que personne ne le voyait. Il faut vraiment des agrandissements de certaines photos pour qu'on se rende compte que la capsule dite un peu de pilotage est intacte. Et on sait par un certain nombre de détails qu'effectivement, ils étaient vivants. Pendant au moins 2 minutes supplémentaires.
C'est finalement la conclusion glaçante de notre œuvre.
Bah oui, alors c'est quelque chose qui et n'est pas caché, mais pourtant quand on se redocumente 30 ans après, on découvre. Et on se dit mais c'est dingue, je savais pas. Ou en tout cas, on savait plus. Bon. Donc effectivement, je n'ai pas pu ne pas mettre ça en scène parce que c'est évidemment source de tellement de projections humaines sur leur ce qu'ils ont pu ressentir ou penser à ce moment-là, parce que bah oui, 2 minutes être en vie pendant 2 minutes alors qu'on comprend qu'il y a un drame autour de soi et que sans doute on comprend qu'on va quand même y mourir, je peux vous dire qu'évidemment là c'est une audace scénaristique peut-être, mais c'est quand même arrivé.
Tout le monde connaît la fin tragique de l'histoire, donc on m'a dit, comment travaille-t-on le suspense et l'émotion quand le lecteur sait que déjà la navette va exploser après 73 secondes ?
Eh ben, c'est tout l'art de mon métier de scénariste que de vous dire, d'accord, on va pas vous tromper. James Cameron a fait la même chose dans Titanic. Voilà. Dès le début, on sait que le bateau, il est monté puis il s'est enfoncé parce qu'on recherche les pas. Vous vous souvenez, ça commence de manière contemporaine. Et ensuite, il revient dans le passé et on va suivre pratiquement minute par minute comment le Titanic a sombré. Bon. Bah moi, évidemment, c'est un peu la même chose. Voilà. Il y a une scène intro où on repêche des débris de la navette. Ça, c'est authentique, hein. Vous savez qu'on continue à en retrouver.
Ah, oui.
En novembre 2022, donc il y a 3 ans, on a retrouvé encore des débris de Challenger. Au niveau du triangle des Bermudes.
Vous parliez en effet au niveau des kilos, enfin des tonnes perdues.
Oui, ah oui, il y a 2000 tonnes au total. Hein. Donc, on a retrouvé encore un morceau de carlingue de 6 mètres de long en novembre 2022. Et en 96, on avait là retrouvé un gigantesque truc. Et c'est ça que j'ai pris comme point de départ. Donc, des pêcheurs, un père et un fils. Le fils était trop jeune au moment de la catastrophe. Donc, le père lui raconte ce qui s'est passé. Donc, on sait. Et après, bah, tout l'art du scénario. De mettre en scène les acteurs. De faire progresser la dramatisation, de faire des pas de côté avec des invités un peu, hein, parce que je vais peut-être m'en parler, il y a quand même 2 personnes qui viennent dans cette histoire.
Il y a Michel Nicole,
c'est Jean-Michel Jarre. Voilà, ça c'est étonnant. Et puis, bah, vous avez évidemment, là, en l'occurrence, j'ai pris le procédé du compte à rebours. Donc, on commence 18 ans en avant, en arrière, hein, par rapport au drame, mais je fais un compte à rebours, mettons 2 mois avant la désintégration, 3 semaines avant la désintégration, 2 jours avant la désintégration, 8 secondes avant la désintégration. Enfin, voilà, on est dans une sorte de compte à rebours, très, très, très terrible, quoi, mais en même temps très efficace, hein. Oh, ben voilà, c'est mon art, c'est mon métier.
Ces personnages secondaires et finalement assez importants en soi,
oui.
Vous les aviez imaginés dès le départ, vous saviez que vous alliez aborder certains angles par leur présence ?
Non, pas du tout. Non, là, c'est vraiment de la découverte aussi. Je sais plus quel a été pour moi le déclic de dire « je veux faire un album sur mon catastrophe Challenger ». Je crois que c'est une histoire que j'ai toujours eu un peu au fond de moi, par le fait que donc je l'avais vu, on va dire, quand même en direct à l'époque, et que je savais qu'il y avait les ressorts pour une belle histoire, et certainement avoir fait la bombe. On s'immisce un peu dans l'arrière-plan, dans les décors, pour voir comment était le projet Manhattan de l'intérieur. Là, je savais que je pouvais mettre de l'intérieur un peu le drame de la mission qui n'aurait pas dû en arriver là, quoi. Bon. En revanche, en me documentant, je m'aperçois qu'effectivement, je peux avoir des petits détours. Alors, Jean-Michel Jarre en est un évident, puisque un des astronautes devait jouer du saxophone depuis l'espace et ça devait être récupéré pour être incorporé au spectacle que devait donner Jean-Michel Jarre en juillet 86 à Houston dans le KALU 150e de l'État du Texas. Et donc, on savait hein, qu'il allait incorporer un enregistrement venu de l'espace. Sauf qu'évidemment, il n'a pas eu lieu. Mais la partition existait et donc le saxophone, la partie de saxophone existe quand même. Elle a été rejouée pour figurer dans l'album Rendez-vous de Jean-Michel Jarre. Quand j'apprends ça, bon, évidemment que je ne peux pas ne pas résister. Et trop le fait parce que Jean-Michel Jarre est français, parce que c'est un artiste mondialement connu, parce qu'à l'époque, il a donc joué un rôle, qu'on le veuille ou non. Et que, effectivement, c'est émouvant. C'est émouvant de savoir que bah, il devait y avoir plusieurs aspects dans cette mission qui sortaient de l'ordinaire et qui faisaient que c'était effectivement une mission très importante pour la NASA à tous les points de vue techniques, au niveau humain, par rapport aux astronautes qu'il a composés et par rapport aussi aux retombées médiatico-communication de la NASA, si on peut employer des termes un peu modernes. Là, ils avaient tout pour faire le gros buzz.
Ah, oui, ils sont dans Maison Blanche aussi. Gros.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais la NASA, c'est une officielle. Donc, effectivement, les autorités les plus hautes de l'État sont toujours derrière la NASA et toujours propres, enclines à mettre en avant un travail aussi qui fait autant rêver, si j'ose dire.
Vous détaillez avec précision les défaillances de ces joints et les alertes ignorées. Comment dosez-vous l'explication technique pour qu'elles servent sans jamais l'alourdir le vessie?
La réponse évidente, cher ami, c'est de ne pas en faire trop. Parce que sinon, on tombe dans un récit un peu technico-technique, un peu trop vulgarisateur peut-être, et peut-être même rébarbatif. Bon, cela étant, j'ai l'ambition que des astrophysiciens lisent mon livre. Soit parce qu'ils sont jeunes et qu'ils n'ont pas connu ça, et qu'ils en ont entendu parler, petite piqûre de rappel, et que on est en pleine actualité de l'exploration spatiale. Hein. Vous savez que donc le programme Artemis, ça y est, la phase Artemis 2 aux États-Unis est censée être concrète au mois de mars avec une orbite lunaire et 4 astronautes. On est censé aller sur la Lune de nouveau en 2027 si tout va bien. Il y a la française Sophie Adonneau qui doit décoller pratiquement au moment où on parle là, pour aller sur l'ISS. Je sais même qu'en Belgique, l'astronaute Raphaël Liégeois attend aussi son tour, mais il y aura droit aussi un jour. Donc, je veux dire, là, on est quand même dans une actu où c'est vrai que le spatial revient un petit peu là au premier plan. Donc, mon objectif, c'était de quand même donner des infos, des renseignements, d'apprendre des choses à mes lecteurs sur, effectivement, de la technologie, mais évidemment, de mettre ça en plutôt deuxième plan pour privilégier une histoire humaine. Ça, c'est évident.
Est-ce que vous, dès le départ, vous saviez que vous allez insister sur le côté évitable?
Ben oui, parce qu'honnêtement, c'est un scandale. Franchement. Maintenant, on en parle avec, évidemment, le recul de 40 ans. Ça fait partie de l'histoire. Ça n'a pas empêché les navettes de repartir à l'assaut du ciel.
Il a fallu 3 ans, quand même.
Alors, 2 ans et demi.
Oui.
Mais oui, bien sûr. Et vous savez qu'il y a eu un autre drame d'une autre navette. Hein, Columbia, qui a explosé au retour dans l'atmosphère en 2003. Je vérifie que je ne dise pas de bêtises. Alors, où est-ce que c'est ma petite note? Voilà. Le 1er février 2003, ben voilà, on est encore dans les périodes. Donc, il y a eu le drame, 7 morts aussi, hein, les 7 astronautes sont morts sur le coup. Bon. Donc, cela étant, le temps n'excuse pas tout. Et à la base, il y a une faute majeure de la NASA qui non seulement autorise un décollage, mais pousse pour que le décollage ait lieu en mettant la pression à un de ses sous-traitants. Et en ne faisant pas toutes les normes Diokol, qui est basé dans l'Utah, qui construisent les boosters, les fameux propulseurs d'appoint, et dont ils savent, hélas, là aussi, c'est s'il doit y avoir responsabilité de leur côté, c'est qu'ils savent qu'ils sont pas nickel. Que s'il fait trop froid, le joint d'étanchéité ne tiendra pas. Et pourtant, ils vont le faire. Alors, en plus, la recommandation, elle est ferme. Hein. En dessous de 11 degrés, température ambiante, faut pas décoller, on a un doute. Ce matin-là, il fait -4 degrés sur le pas de tir. Il y a des photos qui sont glaçantes à tous les niveaux parce qu'on voit bien la glace.
Ouais,
et puis même des sortes de comment dirais-je d'outils qui sont là et qui sont complètement recouverts de glace quoi. Bon, donc là on peut pas dire qu'ils savaient pas. Sauf qu'elle avait déjà été repoussée 4 fois cette navette. On était un mardi. Est-ce qu'on allait encore attendre? Il y avait des prévisions météo qui étaient pas géniales pour le reste de la semaine. À un moment donné, la NASA, ils se sont tirés une balle tout seul dans le pied. Ils disent, allez, y va. Si c'est pour avoir 7 morts, là, c'est sûr qu'il fallait vraiment pas le faire, quoi.
Challenger, c'est aussi le récit d'une Amérique qui veut aller vite, trop vite. En tant que scénariste, quel regard portez-vous sur cette course au succès qui risque de mener au désastre, finalement ?
C'est une époque qui est pas la même que maintenant. Je pense que c'est quand même une explication. Alors, c'est même pas la même époque que Apollo. Apollo, c'est la guerre froide, des années 60, faut aller à la conquête de la Lune. Il y a une vraie compétition technique, c'est sûr, mais quasi idéologique. En tout cas, 2 blocs face à face, URSS et États-Unis, et beaucoup de témoignages l'expriment. La course à la Lune, c'est une course quasi fondamentale pour le monde libre. Vu des États-Unis, on est bien d'accord. Bon. Donc, s'il doit y avoir des morts, ça peut faire partie de l'histoire, puisqu'on est des héros d'une sorte d'opération quasi-militaire. On est bien d'accord. Bon. Les programmes Apollo s'interrompent, et donc ce sont les programmes de la navette spatiale qui prennent le relais. Sauf que dans les années 80, si vous vous souvenez bien, après une période de détente qui correspond aux années 70, où par exemple Nixon va à Moscou en 74, il y a pas de problème à ce niveau-là. Mais dans les années 80, souvenez-vous, Ronald Reagan, le programme La Guerre des Étoiles, en URSS, c'est l'époque où avant que Gorbatchev arrive, sont des vieux membres du Politburo, les Andropov et compagnie qui prennent le pouvoir, et on sait vraiment pas ce que ça va donner. Il y a un regain de tension incontestable au niveau un petit peu des relations américano-soviétiques. Et donc, la NASA et ce programme des navettes spatiales continuent de symboliser un petit peu l'avance qu'a les États-Unis, au moins sur l'espace. Donc, c'est vrai que les États-Unis, et la NASA en particulier, ne veulent pas donner l'impression que ça patine ou qu'il y a des problèmes ou qu'il faut retarder les missions à chaque fois parce qu'il y a des petits soucis. Il y en a pourtant, mais à un moment donné, faut y aller quoi. Alors on n'envoie pas cet astronaute à la mort en mode ce sont des héros, on les décorera d'une médaille. Non, à l'époque, il y a beaucoup de normes de sécurité qui sont déjà en place. Mais à un moment donné, la décision fait que on va s'asseoir sur ces normes de sécurité, on va quand même les envoyer. Maintenant, je pense honnêtement que c'est différent. Et au contraire, on pourrait presque même penser qu'on est trop prudent. Parce que c'est vrai que Artemis, qui a déjà 3 ans au moins de retard, on a l'impression qu'on ne sait plus faire. Et qu'on ne veut plus prendre de risques, au contraire. C'est un peu ça le revers de la médaille.
Dans un drame d'une telle ampleur, le silence est souvent plus fort que les mots. Comment abordez-vous les samuettes en tant que scénariste?
J'ai toujours aimé ça, de toute façon, parce que c'est ce que j'appelle des séquences contemplatives. J'aime beaucoup voir les personnages réfléchir, être un petit peu sous le choc de ce qu'ils viennent d'apprendre, de ce qu'ils vont devoir faire, et de les voir un peu baisser la tête en silence, en essayant de mesurer tout ce qu'ils attendent. Bon, ça, j'avoue que c'est le cas de notre personnage principal, donc Krista McAuliffe, qui est donc une professeure qui a été sélectionnée pour aller dans l'espace donner un cours et qui se retrouve embarquée dans un environnement ultra spécialisé d'ingénieurs de la NASA. Parce que je peux vous dire, quand vous êtes astronaute de la NASA sélectionné pour aller dans une mission de navette spatiale, vous êtes une tête de dingue. Vous êtes soit un ancien militaire, soit vous êtes un ingénieur astrophysicien, soit vous avez effectivement un QI incroyable. Enfin bref, vous êtes une personne pas comme les autres. Bon, elle se retrouve au milieu de ça. Elle est mère de famille. Et effectivement, on peut avoir un peu le sentiment, mine de rien, ça la dépasse un peu, même si elle était totalement volontaire et que c'est une expérience qu'elle ne changerait pour rien au monde. Mais le fait est que ça lui tombe un peu dessus. Donc j'essaie de mettre en scène ce ciel un peu qui lui tombe sur la tête avant le drame avec un D majuscule. Et donc il y a beaucoup de scènes où je la représente pensive, effectivement. Mais vous avez raison, le silence est très fort et souvent On parlait de la bombe tout à l'heure. C'est vrai que dans le film Oppenheimer de Christopher Nolan, quand il y a l'essai, parce qu'il y a qu'une bombe qui explose que l'on voit à l'écran, c'est vrai que c'est muet dans un premier temps. Il a eu l'idée vraiment superbe d'attendre que l'onde de choc arrive et qu'enfin on voit une sorte de conséquence de cette explosion, mais à la base on n'entend rien. Et là, c'est vrai qu'on peut penser, puisqu'on lit une bande dessinée, qu'on n'a pas de bande son, bah que les cases de l'explosion sont muettes évidemment et nous pétrifient.
Vous avez choisi un titre fort, presque mystique. Doit-on y voir une référence à la quête de sens face à l'absurdité d'une catastrophe technique ?
Alors, vous me posez quand même la question en connaissant le pourquoi du comment.
Oui, bien sûr.
Hein, vous avez bien, puisque vous avez lu. Bon, donc écoutez, non, c'est... J'ai toujours aimé les titres un peu poétiques, comme je les appelle. Après mes scènes contemplatives, j'aime bien mes titres poétiques. Mais là, le visage du créateur, c'est vrai que tout le monde doit se dire, mais quel rapport avec avec une navette spatiale qui explose? Bon. Je vais pas tout dire. Je vais juste dire que Ronald Reagan, le soir, fait un discours depuis le bureau ovale. La nation est en deuil. C'est le président qui s'exprime en direct à la télévision. Là, c'est vraiment très solennel. Mais c'est vrai qu'il conclut son discours d'une manière un peu grandiose, avec une phrase où il parle de the face of God, le visage de Dieu, littéralement. Donc moi, je l'ai traduit par le visage du créateur, parce que c'est tiré d'un poème dont la traduction française officielle n'existe pas. Donc j'en ai fait ma traduction, et le mot créateur m'a semblé pas mal. Voilà. Et donc, là, pour vous répondre vraiment directement, on est clairement aux États-Unis, hein. Dieu est partout, hein.
Justement, quelle est la place du religieux dans un tel voyage? Que ça soit, on ne voit pas nécessairement un crucifix, une croix ou même un geste.
Non, c'est évident que les astronautes en majorité, alors ceux des années 60 quand ils ont été sélectionnés, qui étaient vraiment des gens bien comme il faut, jeunes, un peu bien représentatifs d'une certaine Amérique des années 60, sont tous des gens globalement qui vont à l'office le dimanche, qui sont très croyants et qui effectivement ont une conscience un peu à l'américaine religieuse. Là, honnêtement, dans le parcours des uns et des autres, à part le fait d'être un peu standardisé, c'est-à-dire qu'ils, globalement, ils sont tous mariés, ils ont des enfants, et effectivement, c'est un foyer totalement équilibré et sans doute très représentatif d'une certaine Amérique blanche protestante, oui, on va dire ça comme ça. Mais pas complètement, en tout cas, ça transparaît pas dans leur parcours. L'autre astronaute, là, Judith Resnik, elle a un parcours un petit peu hors des sentiers battus. Je rentre pas dans les détails, mais elle est un peu anticonventionnelle, faut avouer. Donc là, on sent qu'il y a pas du tout de dimension spécifiquement religieuse. Et en tout cas, ils n'ont jamais mis en avant une dimension mystique comme ça, un petit peu à l'américaine, pour dire allez, on va aller aux étoiles, tutoyer les étoiles, approcher Dieu. Non, ils ont une mission un peu technique à faire, avec de l'attente. C'est tellement compliqué de piloter une navette ou d'avoir à faire ce qu'on a à faire que c'est ça qui prime. Hein. Franchement, moi, je n'ai pas ressenti à ce point-là ce poids de la religion dans cette histoire.
Votre récit traite beaucoup de ce que nous laissons derrière nous. À 58 ans, est-ce que c'est un thème qui vous est cher ?
Oui, bien sûr. Non, mais je réfléchis un peu tout haut parce que, attendez, j'ai pas des réponses toutes faites. Mais en tout cas, moi, à titre personnel, j'ai toujours été très, sensible à la transmission. Bon. Alors ça, c'est peut-être d'un point de vue un petit peu plus égoïste par rapport à mon métier. J'aime raconter comment je travaille. J'aime raconter à des jeunes qui me demandent comment faut travailler si on veut être scénariste ou si on veut raconter des histoires ou si on veut se lancer dans la bande dessinée. Ou à des écoliers, des lycéens, d'avoir une sorte de cours d'histoire un petit peu vivant que je peux leur donner. Je suis intervenu plein de fois dans des lycées à la suite de la bombe. Et si encore un prof d'histoire demain devait me demander si ça m'intéressait, ouais, je suis partant. Bon. Donc ça, c'est à titre personnel. C'est vrai que c'est quand même une notion qui m'a toujours touché. Je crois beaucoup à la jeunesse. C'est notre futur. Faut encourager les jeunes. Faut leur faire croire à plein de choses. Et c'est eux qui vont changer le monde, peut-être, dans quelques années. Bon. Au niveau plus global, théoriquement, on pourrait penser que ce genre d'histoire, c'est fait pour que ça ne se reproduise pas. Bon, donc on va dire que c'est déjà ça, si on peut éviter d'envoyer des gens à la mort. Et comme on est, on le disait, dans une actu qui remet un petit peu l'exploration spatiale sur le devant de la scène, bah moi, j'avoue que ça me plaît beaucoup, parce que je fais partie de ceux qui considèrent que le 19 juillet 69, ça a été peut-être la plus grande date de l'histoire de l'humanité. Hein. Donc, effectivement, je fais partie de ceux qui se désolent un petit peu de savoir que depuis ce temps-là, on n'est toujours pas revenu sur la Lune et qu'on considérait même ça de manière un petit peu hautaine en disant il n'y a aucun intérêt à aller sur la Lune. Si, je pense qu'il y a quand même des intérêts au niveau de coopération internationale, au niveau de scientifiques, par rapport à l'espace, par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à envisager notre futur à nous, par rapport à trouver des solutions peut-être d'économie ou d'environnement. Je suis persuadé que tout ça, ça forme un tout et qu'on ne peut pas ne pas en tenir compte. Donc, admettons que mon histoire serve à reprendre à remettre en avant un certain flambeau de la conquête spatiale.
Pour terminer, la conquête spatiale et l'univers des sports mécaniques, ah oui, ce sont deux mondes qui se rapprochent ou complètement différents?
Bon, alors, je vois que vous n'ignorez pas que j'ai été journaliste et spécialiste de sports mécaniques pendant longtemps et que j'ai côtoyé effectivement beaucoup de disciplines et beaucoup d'équipes au travail et beaucoup de responsables. Ben, je peux témoigner que dans l'idée du sport automobile de très haut niveau, mais c'est pas forcément même jusqu'en Formule 1. En Formule 1, ça l'est incontestablement, mais vous avez des championnats de voitures de tourisme dans certains pays où vous avez des équipes professionnelles qui sont à l'œuvre, avec des ingénieurs par dizaines, des mécaniciens par centaines, et que ils sont à la recherche du moindre centième à gagner sur la piste, quoi. Et ça passe par des heures de soufflerie, de dessin à la planche à dessin, de conception maintenant assistée par ordinateur, de fabrication de pièces pour voir si ça marche. Et donc, il y a une exigence de qualité, de rendement à venir, bien sûr, et surtout d'efficacité. Et ça, je peux vous dire, c'est un point commun que je peux trouver, c'est qu'effectivement, au niveau de la NASA, ben, on le voit maintenant, puisque maintenant, vraiment, on prend toutes les précautions pour que tout se passe bien si on doit retourner dans l'espace. Mais il faut que tout soit en place, quoi. Et donc, il y a théoriquement pas de place pour l'improvisation, pour des décisions hâtives ou pour des solutions techniques qui sont pas éprouvées. Et ben, en 86, hélas, ça a été le cas.
L'ascenseur pour l'échafaud de Louis-Malle, c'était prémonitoire comme référence?
Alors oui, j'en parle à un moment donné, oui, mais je sais même plus, oui, ça me revient. Ah oui, pour le fait de s'élever et d'aller à la mort. Oui, c'est ça, hein, je fais parler. Oui, c'est ça, tout à fait. Bah, c'est vrai que c'est un titre déjà qui est assez emblématique, hein, qui a été détourné des milliards de fois pour des articles ou pour des livres. Là, c'est vrai qu'il y a un côté tellement tragique qu'effectivement, j'ai toujours aimé ces questions de destin. Et là, pourtant, c'est pas écrit, hein, que la mission va se crasher. D'ailleurs, cette mort, a priori, tout se présente bien quand même, quoi. Tout est en place pour que ce soit une mission emblématique. Et ça devait être la mission la plus importante du programme des navettes spatiales depuis l'existence du programme en 81. Et certainement une des plus importantes de l'histoire de la navette spatiale, si tout s'était bien passé. Alors, elle l'est devenue, en plus, parce que tout s'est mal passé. Mais elle était très importante à la base. Bon. Eh ben, effectivement, ça glace un petit peu le sang de savoir que tout s'est lié pour que ce soit une catastrophe.
Alors, Frédéric, un grand merci. Donc, rappelle Le Visage du Créateur, paru aux éditions Rue de Sèvres. Merci.
Merci à vous.